Donc, Monsieur Toulouse, rapport, s'il vous plaît.
Merci, Monsieur le maire. Donc, cette motion, c'est le compte administratif donc 2011. Par rapport au budget qui avait été voté en 2011, c'est en fait la réalisation et toutes les opérations qui ont été effectuées par la municipalité. Qu'est-ce qu'on peut noter donc sur ce compte administratif? On peut noter d'abord un résultat positif en dépit de la baisse des dotations de l'État, puisqu'on remarque que la DGF a encore diminué entre 2010 et 2011 de 550 000 euros, qui suivait une baisse de plus de 300 000 euros les années précédentes. L'excédent net de l'exercice se monte à 10 071 567 euros, soit 4,4% de l'ensemble des dépenses exécutées en 2011. Et cet excédent a deux explications principales. La première, c'est le bilan positif donc de deux actes qui ont été intégrés. Et puis d'une manière un peu secondaire, les droits de mutation donc, qui ont augmenté de 900 000 euros grâce à une opération qui a été réalisée sur Metz. On peut noter quelques indicateurs qu'on doit relever puisque ces indicateurs sont bons. La première, c'est une vraie maîtrise donc, des crédits de fonctionnement, puisque le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est très élevé et en progression continue. Donc ce taux de réalisation est de 97,3% sur le budget total voté. Il était de 96,8% et 95% en 2009. Donc on arrive de mieux en mieux à ajuster nos prévisions par rapport à nos réalisations. Deuxième indicateur satisfaisant, les dépenses de personnel. Elles restent maîtrisées à 72 millions d'euros, soit 573 euros par habitant. Et comme il faut bien se comparer de temps en temps pour voir comment on évolue par rapport aux autres, on a un total de dépenses de personnel qui est bien inférieur par rapport au budget total que les villes d'importance comparable à la ville de Metz. En recettes, la pression fiscale reste raisonnable puisqu'elle représente 409 euros par habitant. Et encore une fois, si on se compare, les autres villes de taille comparable prélèvent 531 euros par habitant. Donc on est plus de 20% en dessous des villes comparables en termes de pression fiscale. Au total, une épargne brute donc dégagée de 20,7 millions d'euros grâce à tous les efforts donc qui ont été faits. Et nous avons donc un taux d'épargne brute satisfaisant à 15% rapporté aux recettes courantes de fonctionnement. Deuxième indicateur satisfaisant, c'est la bonne réalisation des crédits d'investissement. Alors, je voulais pas revenir dessus, mais il faut bien revenir dessus. Sous l'équipe municipale précédente, on avait entre 20 et 25% de réalisation des investissements qui étaient votés. Autrement dit, on faisait beaucoup rêver et on réalisait peu. Là, on arrive à près de 60% donc des investissements qui ont été proposés au conseil municipal, qui sont réalisés. On est aussi en constante amélioration et nous avons donc un très bon taux de réalisation des investissements, avec des dépenses d'équipement qui s'élèvent à 296 euros par habitant, donc qui sont des dépenses relativement fortes, qui montrent qu'on entretient la ville de Metz et qu'on investit dans la ville de Metz. Et une dette qui reste faible, puisqu'elle représente 100 euros par habitant, contre 1088 euros pour les villes de même taille. Ce qu'on peut retenir des interventions publiques, c'est une dynamique au service de la population, avec des dépenses de fonctionnement volontaristes sur les secteurs de l'enseignement qui augmentent, sur le développement urbain et sur l'action économique, sur le sport et sur la jeunesse. Donc ces priorités étaient affichées lors du budget et on voit là que les propositions ont été réalisées. Les dépenses d'investissement sont importantes aussi. Nous avons des recettes externes qui sont malheureusement globalement en baisse. Pourquoi ? Alors, parce que... des recettes externes pardon, qui sont globalement en baisse. Les dotations de l'État donc en diminution et le FCTVA qui est en diminution aussi. Mais comment nous réagissons ? Nous cherchons à avoir une démarche active de diversification des recettes de fonctionnement et avoir des recettes d'investissement maintenues, car nous avons donc contracté un emprunt de 7 millions d'euros qui nous permet de garder des réserves importantes. Et cet emprunt nous permet d'emprunter à de très bonnes conditions de taux pour avoir évité à l'avenir à recourir à des emprunts qui sont beaucoup plus onéreux. Donc en conclusion, on peut affirmer que donc, nous avons à la ville de Metz des finances qui sont des finances saines, avec une dépense maîtrisée et un effort d'investissement fort et constant, et des réserves qui sont importantes. Ces finances saines sont pour nous l'assurance d'affronter sereinement les années à venir, qu'on nous annonce difficiles et qui vont certainement être difficiles. Nous avons eu déjà des nouvelles sur le gel des dotations de l'État envers les collectivités. Nous voyons les difficultés qu'ont les collectivités pour se financer, les difficultés de la vie quotidienne pour nos concitoyens. Donc nous avons nos finances saines pour nous permettre d'affronter l'avenir, de continuer à investir pour rendre la ville plus attractive et rendre toujours plus de services aux Messins. Et donc la motion est en conséquence.
Je vais prendre donc les interventions. Monsieur Lebeau, Madame Collin-Osterlet. Voilà.
Monsieur Thiel.
Madame Bory.
Ah là là. Alors. Monsieur Aldrin.
Darbois, Aldrin, c'est tout.
Madame Letty.
Letty. Oui,
Bory Darbois.
Ça et moi.
Madame Bory, Monsieur Darbois et Madame Palaise. Alors on y va. Alors Monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, chers collègues, avant de débuter mes propos, je tiens juste à vous faire part d'un profond regret concernant le manque de transparence sur les comptes de l'UEM. Je vous ai redemandé il y a le 25 juin les comptes de l'UEM eu égard à la problématique du marché, etc., des ententes de marché. Je vous avais déjà demandé, et nous avions, les deux groupes, demandé les comptes de l'UEM. Vous les avez totalement refusés. Donc, je me vois contraint et forcé d'agir devant la CADA pour avoir accès à ces comptes. Donc ça, c'était une remarque préliminaire. Monsieur le maire, chers collègues, en 4 ans, on a le temps de regarder dans le rétroviseur et de constater que vous avez augmenté la taxe d'habitation, la taxe foncière, le prix de l'eau, le prix des parkings aériens, le prix des parkings souterrains, le prix du stationnement en voirie, la taxe locale sur la publicité extérieure, le prix des terrasses, créer la taxe de séjour, créer la taxe sur l'électricité, doubler la taxe sur l'électricité, supprimer 1000 places de stationnement gratuits, soit 700 000 euros de ponctions supplémentaires pour les familles messines. Voilà votre bilan après 4 comptes administratifs. C'est un beau bilan. Jamais de l'histoire de Messin, nous y avions vu une telle déferlante, un tel matraquage fiscal. Il est vrai qu'en 2008, lors des élections, vous aviez prévenu. Voter gros, c'est voter plus d'impôts. On s'en souvient tous. Ce péché originel de votre mensonge vous colle à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock. Alors, pour mieux appréhender ce nouveau compte administratif, monsieur le maire, j'ai souhaité le mettre en perspective par rapport à l'évolution depuis 2007. Aussi, j'ai compilé les informations, parce que vous nous donnez toujours de très beaux graphiques à votre gloire. Alors moi, j'ai pris un peu de temps, et si vous pouvez demander, monsieur le maire, aux huissiers de faire distribuer les petites présentations, pour que tout le monde puisse voir les évolutions des dépenses, parce que je pense que mes graphiques et vos graphiques ne sont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur les graphiques qu'on va vous distribuer, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on constate, monsieur le maire? Simplement, si je prends l'évolution des données générales depuis 2007, on voit que tout... Mais c'est pas en couleur, malheureusement, on fait des économies hein, dans l'opposition, on n'est pas qu'à la majorité. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Au niveau des charges de fonctionnement, on voit une envolée des charges de fonctionnement. L'élément le plus notable, c'est quand même le ratio, dépenses réelles de fonctionnement sur population. De 2007 à 2011, le ratio est passé de 970 euros à 1090 euros par habitant, soit une hausse de plus de 15%. C'est excessif. Si on regarde aussi les évolutions de charges de personnel, parce que ce qui est très amusant, c'est que je reprends point à point les explications qu'a données le conseiller délégué, malheureusement pas adjoint aux finances, mais seulement conseiller délégué pour expliquer ce compte administratif. Il nous dit que les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées. Vous regardez le graphique, qu'est-ce que vous constatez? Une évolution de 14%. Si 14% c'est être maîtrisé, eh ben, on n'a pas la même notion de la maîtrise. Ensuite, il nous dit que les dépenses de personnel sont maîtrisées. Vous n'avez qu'à regarder ce magnifique graphique et vous voyez que, bien évidemment, c'est fortement maîtrisé. Il n'y a pas à dire. Quand vous voyez l'évolution des agents non titulaires, ben, vous comprenez pourquoi les évolutions des charges de personnel augmentent. C'est consternant. Et si on peut continuer ainsi sur les dépenses. On peut regarder aussi l'évolution des subventions de fonctionnement aux associations. Il est aussi assez consternant, ce ratio. Mais j'ai trouvé une seule chose qui baisse, monsieur le maire. J'ai trouvé une seule chose qui baisse dans les différents comptes administratifs depuis 2007. C'est ce graphique. Vous allez pouvoir voir, il y a un graphique qui diminue. Vous savez c'est quoi ? C'est la population. Malheureusement, la population en 2007 était de 127 500 personnes. Elle est en 2011, suivant le compte administratif, de 124 889 habitants. Donc, quand j'entends les dires de votre conseiller délégué aux finances, je crois rêver, puisque vos chiffres, ceux que vous nous donnez, ne reflètent absolument pas la réalité. En fait, la réalité, c'est très simple. C'est des dépenses qui partent en hausse de manière vertigineuse, surtout liées aux charges de personnel, aux charges de fonctionnement à caractère général. En fait, vous avez une frénésie de dépenses. Je crois que vous vous dopez à la dépense publique, monsieur le maire. Tout l'inverse de ce que vous nous aviez évoqué est également une grosse surprise, parce que lorsque vous nous avez fait faire un audit en 2008 par vos érudits conseillers et consultants, où ils avaient envisagé une forte baisse des recettes exceptionnelles. Ils avaient dit « attention, ça va baisser, et comme ça va baisser, on ne va plus vendre de terrain, on va avoir moins de droits de mutation, il faut augmenter les impôts ». Alors, ils nous avaient sorti ça, ils nous avaient sorti l'effet de ciseaux, ils nous avaient sorti plein de choses, mais qu'est-ce qu'on constate 4 ans après ? Que toutes leurs prévisions n'étaient qu'un mirage, une auto-justification pour augmenter les impôts. Et augmenter les impôts, pour quoi faire ? Pour dépenser plus. Vous adorez la dépense publique. Toujours plus de dépenses. Le point le plus surprenant, c'est que quand on reprend le budget 2011, dans le budget 2011 qu'avait rédigé notre collègue M. Toulouse, il rédigeait que ce budget 2011 allait dans la direction du désendettement de la ville de Metz. Et on l'a tous entendu ce soir. Qu'est-ce qu'il est obligé de dire ? Nous avons contracté un nouvel emprunt de 7 millions d'euros. Oui, c'est simple. Plus on dépense, et comme on dépense mais énormément, on est le derviche tourneur de la dépense publique, il faut dépenser, 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 et bien à un moment donné, on est obligé d'emprunter. Alors, un mot aussi, monsieur le maire, sur la section investissement, parce que votre conseiller délégué, qui, je trouve, a une curieuse façon de présenter les chiffres, nous dit que le contrat administratif au niveau investissement est une réussite. Il n'y a quand même que 58% de réalisation et 8 millions d'euros de crédits annulés. Le pire, monsieur le maire, c'est le manque de recherche de financement croisé. Jamais. Et j'ai recherché il y a 20 ans en arrière. Jamais de l'histoire de Metz, on a eu une part aussi faible de recherche de financement croisé. Mais là aussi, ça s'explique. Comme l'argent est abondant, puisque vous ponctionnez de manière extraordinaire les Messins, vous adorez les matraquer avec les impôts, eh bien, ça ne vous incite pas à aller chercher l'argent. Parce que chercher l'argent, en ces temps, et je le concède, c'est difficile. Il faut se donner beaucoup. Eh bien, c'est beaucoup plus facile d'imposer les Messins, puisque là, vous allez directement chercher dans votre poche, que d'aller chercher l'argent là où vous pouvez le trouver. Alors, monsieur le maire, je pense que vos budgets d'investissement avec des montants faramineux, ils manquent de sincérité et de transparence. Alors, un autre point que j'ai relevé toujours, c'est que les Messins ont le sentiment de voir de l'argent comme s'il en pleuvait, investi dans des chantiers dont la justification est souvent incertaine. Un budget d'investissement qui s'envole à 77 millions d'euros, largement plus que les 40 millions d'euros que vous aviez annoncés au début de 2008. On est au double, pas 20%, le double du montant annoncé au début. Et ces dépenses d'investissement, ces 77 millions d'euros, sont financées à plus de 90% par la ville, alors que les règles de bonne gestion devraient conduire à limiter la part de la ville à 66%. Une ville qui est maintenant sans dessus-dessous, une ville qui souffre, une ville que vous éventrez, des médecins qui n'en peuvent plus de ces travaux, des médecins qui aspirent à la quiétude, à la tranquillité et à être moins ponctionnés. Alors, un grand regret, c'est que ces hausses d'impôts injustifiées ont une conséquence, c'est que la fiscalité est un élément d'attractivité de notre ville et de notre territoire. Et le fait que vous ayez augmenté les impôts locaux de près de 20% conduit combien de familles à renoncer à habiter à Metz ou à fuir en raison du poids énorme des impôts locaux et des taxes locales. Et quand je pense le nombre de médecins qui étaient prêts à acheter, à acquérir un bien et que de votre imagination, vous avez créé la taxe métisse, puis l'enlever parce que on était en période électorale, mais on sait bien que c'est vous derrière la taxe métisse, eh bien je crois que les médecins en ont marre de votre gestion et ce compte administratif n'est que le triste reflet de votre mauvaise gestion. Je vous remercie, monsieur le maire.
Alors, monsieur Aldrin.
Non, je crois que c'était moi, monsieur le maire.
Hop. J'ai noté dans ce sens-là, excusez-moi, monsieur Aldrin, allez-y.
Non, je suis désolée, mais c'était, vous m'aviez donné la parole juste après monsieur Lebeau. Mais bon, si vous ne voulez pas me la donner.
C'est moi qui ai la police des débats, excusez-moi, j'ai noté que.
Donc je
ne
la prends pas. Allez-y, monsieur Aldrin.
Monsieur Aldrin.
Vous l'aurez, madame.
Vous aurez la parole, madame Collin, n'ayez crainte.
Mais monsieur le maire. Effectivement, que dans la prise de parole, c'était inscrit comme
c'est
ça.
C'est comme ça. Voilà. Et je suis,
moi, je suis parfaitement d'accord.
C'est vous qui l'avez annoncé.
Vous faites ce que vous voulez. Allez. Oui. Voilà. C'est tellement dérisoire que... Ça, bon, allez.
Le vote du compte administratif est toujours effectivement très intéressant, puisqu'il donne une idée de la manière dont les fonds publics ont été utilisés, en l'occurrence pour l'année 2011. Alors, le compte administratif, comme vous l'avez très bien dit, présente un excédent brut de 16 millions d'euros, un excédent net de 10 millions d'euros, ce qui veut dire, pour rendre les choses compréhensibles, que tous ces millions n'ont pas été dépensés, comme cela s'était déjà produit d'ailleurs en 2010. L'épargne brute, elle, est de plus de 20 millions, ce qui traduit une capacité d'autofinancement bien supérieure à celle de 2010 et 2011. Alors, monsieur le maire, moi, j'ai une question. Quid de l'effet ciseaux dont on nous a bassiné les oreilles et qui justifiait, parce que comme Emmanuel Lebeau l'a très bien dit, c'était cet effet ciseau qui justifiait l'augmentation des impôts 3 années de suite. Alors vous avez menti aux médecins lors de votre campagne municipale en promettant de ne pas augmenter les impôts, à nouveau en leur prédisant le cauchemar des ciseaux dont seule l'augmentation des impôts pouvait les sortir. Et bien, écoutez, c'est un drôle de cauchemar et des drôles de ciseaux. Mais qu'importe, il n'y a plus d'effet ciseau, mais on garde le même taux d'imposition. Alors pour 2011, et pour ne parler que de la taxe sur l'électricité, c'est 1,7 million de recettes supplémentaires ponctionnées sur les plus fragiles. J'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est ça votre bouclier social, monsieur le maire, dont vous nous avez aussi bassiné les oreilles toute l'année? Pire encore, vous avez contracté en catimini un emprunt dit vertueux de 7 millions d'euros que vous placez pour augmenter votre réserve. Alors je veux seulement espérer que le placement est sûr et que les médecins ne supporteront pas pendant des années les conséquences de vos turpitudes. Monsieur le maire, vous ne cessez aujourd'hui de clamer que l'impôt est bon. Mais quand on voit de telles réserves avec une augmentation de la fiscalité, on se pose quand même des questions sur votre aptitude à gérer, votre aptitude à anticiper. Si l'impôt est bon, évidemment, lorsqu'il répond à la réalité des besoins, il est injuste lorsqu'il n'y répond pas. L'impôt n'est pas là pour vous permettre de vous coucher sur des matelas confortables. Et aujourd'hui, à Metz, l'impôt est injuste et il est confiscatoire. La pression fiscale que vous avez imposée aux médecins, monsieur le maire, elle n'était pas justifiée. Et elle ne peut être légitime que si elle répond à des besoins urgents, à des besoins incontournables de la population. Et à l'évidence, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si les affaires scolaires, évidemment, vous en parlez souvent, les affaires scolaires méritaient une attention soutenue. Cette attention représente aujourd'hui moins de 1 million d'euros par an supplémentaires, et nous sommes bien loin des 12 millions de recettes fiscales supplémentaires. Alors, je vais en revanche être obligée de parler du CCAS, puisqu'il est subventionné à hauteur de 11,7 millions par la ville de Metz. Le CCAS se retrouve aujourd'hui avec un trésor de guerre de près de 7 millions d'euros. Bien au-delà, évidemment, de ce qui est nécessaire pour financer le projet de la mandature, la crèche de l'amphithéâtre, qui verra le jour au mieux fin 2014. Moins 24 000 euros en 2011 pour la petite enfance. Rien de plus pour les personnes âgées. Pas une nouvelle place de crèche créée depuis 4 ans, à l'exception d'une dizaine de places de crèche de nuit créées en début de mandat, grâce d'ailleurs au concours de Mme Zimmermann. Quelle cohérence dans tout ça ! Votre adjointe vice-présidente du CCAS nous a dit, Michel Laitier est là pour en témoigner, elle nous dit en plein conseil d'administration qu'elle n'a pas de nouvelles idées pour dépenser cet argent. Alors voyez-vous, ce qui m'ennuie, c'est pas tellement qu'elle n'ait pas d'idées et qu'elle nous demande d'en avoir à sa place. En revanche, ce qui m'ennuie, c'est qu'elle soit là et qu'elle n'ait pas d'idées. Et puis il y a encore les réserves de Metz Métropole Développement, 800 000 euros. Là aussi, je m'interroge sur le bien fondé de cette agence de développement économique et du montant des subventions publiques qui y sont dédiées. Je crois, monsieur le maire, que nous vivons là une situation unique en son genre. Alors que vous avez pris la décision d'augmenter les impôts des médecins 3 années durant, la dernière avec la taxe sur l'électricité, il y a également la taxe additionnelle de Metz Métropole, bien sûr, vous ne savez plus trop comment dépenser cet argent, alors, eh bien, vous faites un budget supplémentaire pour justifier l'utilisation de ces fonds. Eh bien, moi, monsieur le maire, j'ai une situation toute trouvée. L'argent non dépensé, il faut le rendre aux médecins. Et moi, je vous demande solennellement de baisser dès 2013 le taux d'imposition des médecins pour revenir au niveau 2008, d'autant qu'avec la revalorisation des valeurs locatives, les taxes locales augmentent déjà automatiquement de près de 3% par an. Alors, je vous demande de supprimer également la taxe sur l'électricité qui est d'une profonde injustice et je vous demande de diminuer vos dépenses dans les secteurs qui ne sont pas prioritaires. Enfin, je formule un vœu pour le budget primitif 2013, que l'on réponde enfin aux besoins essentiels de la population et que l'on réfléchisse aux actions qui apportent un vrai plus, tant en termes d'attractivité de notre ville qu'en termes d'amélioration du quotidien des médecins, avec quelques domaines de prédilection. Petite enfance, personnes âgées, développement économique, sécurité, propreté. Parce que ces domaines d'action aujourd'hui sont malheureusement délaissés par votre majorité, alors qu'ils devraient être au cœur de vos préoccupations et de votre action municipale. Sans nécessiter la moindre augmentation fiscale, monsieur le maire, le compte administratif est là pour en attester. Je vous remercie.
Merci. Alors, on mettra monsieur Aldrin plus tard. Monsieur Thiel.
Oui, monsieur le maire, mais c'est l'ordre que vous aviez indiqué, d'ailleurs. Je vous remercie de le suivre. Écoutez, je voudrais vous dire que les principaux indicateurs que M. Toulouse est très fier d'afficher sont très curieux, surtout venant de la part d'un enseignant. Moi, on m'a toujours appris que lorsqu'on était très mauvais élève, se rapprocher de la moyenne était un mieux. Mais lorsque l'on était très bon élève, se rapprocher de la moyenne, excusez-moi du peu, mais c'est un moins bien. Or, c'est une régression qui est affichée ici, puisque vous avez l'art de vous comparer toujours avec la moyenne de la strate. Et la moyenne de la strate, on était très très loin de la moyenne de la strate, tellement on était bon, à la fois du côté des emprunts, de la pression fiscale, des investissements, d'un fonctionnement contenu. C'était cela, je dirais, les finances de la ville. À force de vous vouloir vous rapprocher de la moyenne de la strate, vous dégradez à chaque fois les finances de la ville. C'est cela qu'il faut faire comprendre à nos concitoyens. Parce qu'on est tout le temps en train de nous enfumer avec ce belle statistique. Moi, j'aurais honte de les mettre. Parce que jadis, on était nettement meilleur. Alors, monsieur le maire et chers collègues, je voudrais simplement comparer ce que vous disiez en 2009, y compris dans les documents officiels, et 2009, c'était déjà vous, avec la situation d'aujourd'hui. Et je voudrais le faire, si vous voulez, et nous allons nous inscrire dans cette perspective. Moi, je parlerai globalement et surtout de vos recettes. Jérémy Aldrin va se faire un plaisir de parler de vos dépenses. Et quant à Michèle Letty, elle va se faire le plaisir de parler de ce qui est à votre cœur, le social, comme vient de le faire Nathalie Collin-Osterley. Alors, globalement, je voudrais citer le rapport de 2009. Toute chose égale par ailleurs, disiez-vous, toute chose égale par ailleurs, c'est magnifique, il se dessine bien un effet ciseau, les recettes courantes augmentant moins vite, plus 0,36%, écriviez-vous, que les dépenses courantes, plus 2,62%. En fait, votre plus 0,36 était faux, puisqu'il s'est avéré que c'était plus 2,79%, donc il n'y avait pas d'effet ciseau du tout dès le début, et nous l'avons tout le temps développé. Et vous continuiez en disant « Les mesures à prendre sont mises en œuvre dans le cadre budgétaire de 2009 sous deux axes. Premièrement, une meilleure maîtrise des dépenses courantes, notamment la charge de personnel. » Et ça, Jérémy Aldrin va se faire un plaisir de vous montrer ce qu'est la meilleure maîtrise des dépenses courantes. « Et la mise en œuvre de nouvelles recettes courantes, disiez-vous, notamment l'impôt des ménages, la taxe de séjour, et ça, effectivement, on a vu. » Alors, je voudrais dire que globalement, un compte administratif se regarde déjà par l'excédent qu'il génère. Nathalie Collin-Osterlé en a parlé. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Parce qu'en 2009, on avait un excédent de 1 973 000 euros. En 2010, 8 265 000 euros. On voit déjà ce que la fiscalité, si j'ose dire, auprès des ménages, la ponction des ménages a largement rapporté. Elle a rapporté, mais pour rien, puisqu'on avait un excédent, et ça voulait dire donc que c'était inutile. Mais alors cette année, avec un dépassement, et je prends le chiffre le plus bas, c'est-à-dire l'excédent net, de 10 071 000 euros, on atteint là des sommets que l'on avait enregistrés qu'en 2008, lorsqu'on avait évidemment vendu l'UEM, qui avait rapporté 45 millions et où on était aussi avec un fort excédent. Donc voyez, le dérapage de cet excédent, 2009, 1 million 9, 2010, 8 millions 2 et cette année, 10 millions. Or, si je prends en compte les recettes fiscales, eh bien, en 2007, on était à 43 millions. En 2008, 44 millions. Donc, on voit qu'il n'y a pas encore l'effet de vos augmentations des impôts. Et en 2011, je compare donc 2008, toujours, hein, votre rapport de 2009 et 2011, on passe donc de 44 millions de recettes fiscales, globalement, à 51 327 000 euros, où il faut en plus ajouter la taxe de l'électricité, qui est la nouveauté, pour 1 717 000 euros, soit on passe de 44 millions à un peu plus de 53 millions d'euros. Ça fait donc que la pression fiscale sur les Messins s'est accrue non seulement de 21%, mais ça représente 9 millions d'euros. Et vous avez un excédent de 10 millions d'euros. Autrement dit, ces recettes fiscales, l'effet ciseau, etc., je viens de démontrer, mais alors chiffres à l'appui, et ce sont vos rapports et vos chiffres, qu'en fin de compte, cette augmentation n'aurait pas eu lieu. Et je crois qu'il faut la rechercher, non pas dans les finances publiques et un sain équilibre des finances publiques, mais simplement dans une doctrine qui est que dès que vous arrivez avec vos idées soi-disant sociales, mais on va en reparler, eh bien tout doit passer par l'augmentation de la pression fiscale qui, dites-vous, est juste, équitable, etc. Les Messins jugeront le moment venu. Mais souvent vous nous expliquez qu'il a fallu augmenter les recettes fiscales parce que l'État ne faisait pas ce qu'il avait à faire ou que d'autres recettes allaient diminuer. J'en veux pour preuve, par exemple, d'autres recettes. Prenons la taxe additionnelle sur les droits de mutation. Bien, nous sommes là, en 2008, donc dans le rapport que je cite toujours de 2009, à 3 735 000 euros. Nous sommes aujourd'hui à 4 185 000 euros. C'est une augmentation, c'est heureux, ça dépend de la conjoncture. Mais ce qui est plus drôle, ça fait plus 12%, vous écriviez cependant, cette taxe stagne et va sans doute pour les exercices futurs enregistrer un fort mouvement à la baisse. Donc vous vous êtes encore trompé. Et puis pour ce qui est de l'État, vous nous dites toujours la dotation globale de fonctionnement. Mais la dotation globale de fonctionnement, c'est vrai, n'a pas augmenté. On a même un petit peu perdu. En 2009, dans votre rapport, la taxe globale de fonctionnement était à 28 734 000 euros. 28 734 000. Elle est aujourd'hui à 28 552 000. Donc on voit bien qu'on a un petit peu perdu, parce qu'on a perdu de la population, etc. On a un petit peu perdu, je vous le concède. Mais la compensation de la taxe professionnelle est passée de 843 000 euros, chiffre du rapport de 2009, à 1,5 million aujourd'hui. Donc globalement, disons-le, reconnaissons-le, la dotation globale de fonctionnement plus les diverses compensations, et je ne parle pas de la compensation militaire, font que l'État, non seulement a respecté ses engagements, mais a augmenté.
Ensuite, la dotation de solidarité urbaine, ça c'est aussi intéressant. En 2007, elle était de 4 015 000 euros. 2 millions, 4 millions. Elle est passée en 2008, grâce à M. Borloo et à la politique du précédent gouvernement, à 4 652 000 pour Metz. Elle est aujourd'hui à 4 874 000 en 2011. Donc on voit bien que tous ces postes, l'État a pris sa part, dans un contexte économique certes difficile, mais qu'elle y a pris toute sa part. Voyez-vous, en conclusion, simplement de l'analyse des recettes, eh bien, on aurait pu éviter cette augmentation d'impôts. Et je ne tiens pas compte, monsieur le maire, de ce que nous avons dit sur nos différents rangs, qui était de dire qu'il fallait relancer l'économie au niveau local, faire davantage d'implantations, d'entreprises qui amènent de l'emploi, qui amènent de la richesse. On vous a reproché dans le dernier conseil municipal la panne sur Technopôle 2, on vous a reproché la panne sur les deux fontaines, par exemple, en disant vous ne faites rien, c'est votre grand échec, le développement économique. Mais là, de développement économique, puisqu'il n'y en a pas, il n'y en a pas du tout. Donc tout notre raisonnement qui consistait à dire qu'il faut favoriser des richesses pour éviter cette augmentation fiscale, je le dis très solennellement ce soir, cette augmentation fiscale est même injustifiée alors même que nous n'avons pas le développement économique. Alors, plutôt que de rechercher à comment utiliser cette manne de 10 millions dans un budget supplémentaire qui fait que vous dérapez complètement par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire de bien sur vos budgets supplémentaires qui étaient réduits, et simplement comment utiliser cet argent. Et là, nous nous rejoignons pour les deux groupes et tout à fait ensemble pour dire que vous devez rendre aux Messins l'argent injustement prélevé dans leur poche. Mais on pourrait faire davantage d'économies, et ça, Jérémy Aldrin va pouvoir vous le dire.
Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, suite aux propos fort brillants de Patrick Thiel, qui a démontré, je crois, par A plus B, que sur la partie recette, l'augmentation d'impôts n'était pas justifiée, on peut tenir strictement le même raisonnement, comme Emmanuel Lebeau, sur les dépenses. Au fond, Monsieur le maire, votre gestion budgétaire, aujourd'hui, montre trois années pleines et entières d'exécution budgétaire. C'est pour ça qu'on a probablement tous eu cette idée de se comparer, de comparer les comptes administratifs de 2009 à 2011. On ne prend même pas 2008, on est sympa, parce que finalement, c'était un peu tronqué, c'était pas complet, mais 2009, c'est votre premier budget complet, 2011, c'est le dernier. Et au fond, il y a deux méthodes budgétaires. Il y a celle qui, à mes yeux, est la bonne, qui est rigoureuse, qui est d'ajuster ses dépenses par rapport aux recettes. On ne dépense pas plus que ce qu'on gagne. Et il y a la seconde méthode budgétaire, qui est la vôtre, qui est la mauvaise gestion, qui est le laxisme, qui consiste à ajuster ses recettes par rapport aux dépenses. Alors pour un ménage en s'endettant, pour une collectivité en levant l'impôt, voire les deux, comme vous l'avez fait. Ce qui est très intéressant quand on regarde donc les comptes administratifs de 2009 à 2011 sur la partie dépenses, c'est de voir l'explosion notamment des dépenses de gestion courante. 8 millions d'euros en plus entre 2009 et 2011, c'était 129 millions d'euros en 2009, c'est 137 millions d'euros en 2011. Vous pouvez nous expliquer que vous avez maîtrisé les dépenses quand, sur le principal poste de dépenses en fonctionnement, vous faites plus 8 millions d'euros, allez comprendre. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre le mécanisme que vous avez utilisé. Au fond, vous avez gonflé les recettes complètement artificiellement parce que, comme cela a été démontré, ce n'était absolument pas justifié, pour vous construire un matelas. Et en 2009, par exemple, ce matelas, vous l'avez considérablement gonflé pour les charges à caractère général. Comme vous aviez plus de recettes, vous aviez été jusqu'à 35 millions de charges à caractère général budgétées. Et en 2009, on constate que seulement 29 millions avaient été utilisés, ce qui faisait, quand même au bas mot, 6 millions de crédits annulés. Alors vous vous êtes dit, après, puisque j'ai possibilité de dépenser plus parce que j'ai augmenté mes recettes, eh ben je vais craquer ce matelas. Et vous avez fait ça sur tous les postes de dépenses de fonctionnement. Les charges à caractère général, elles sont passées de 29 millions à 32. Les charges de personnel, plus 4 millions d'euros. Et attention quand même, à mon avis, au prochain rapport de la Chambre régionale des cours des comptes, parce que je pense qu'elle ne va pas beaucoup aimer le fait de voir plus 100 contractuels en plus en 3 ans. Il y avait 443 contractuels en 2009, il y en a 543, soit 100 de plus, soit la maudite augmentation de 25% d'effectifs contractuels en plus. On a souvent parlé d'études, de frais d'études. On va y passer pas mal d'études. Alors, je me suis dit, je vais quand même comparer pour voir combien ça coûte. En 2009, vous dépensiez 180 000 euros en frais d'études. En 2011, 725 000 euros. La modeste augmentation de 300% des frais d'études. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre que, puisque vous avez gonflé les recettes, eh ben, allons-y sur les dépenses. C'est bien pour ça que, dans les deux méthodes de gestion budgétaire que je vous ai présentées au début, la nôtre, celle qu'on souhaiterait, c'est la bonne, et le laxisme et la mauvaise gestion budgétaire, c'est la vôtre. Et dans les chiffres qu'a donné Emmanuel Lebeau sur l'augmentation des ratios de dépenses réelles de fonctionnement, effectivement, c'est vertigineux. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir que la strate, dans le même temps, ne bouge pas d'un euro. 1139 euros de dépenses réelles de fonctionnement dans la strate. En 2009, 1130, en 2011, le chiffre est strictement le même. C'est-à-dire que nous, nous augmentons considérablement, et la strate, elle, parce que peut-être des maires qui ont conscience que le contexte est difficile, qu'il faut réduire la voilure, qu'il faut diminuer les dépenses, la fameuse strate à laquelle on aime tant se comparer, elle n'a pas bougé d'un euro. Enfin, je voudrais terminer parce que pendant plusieurs années, on a entendu ce discours qui était très pénible pour nous. C'est la faute de l'État, le dédégagement de l'État. Monsieur Toulouse, encore ce soir, il a commencé son propos, la première phase, hein, à cause du désengagement de l'État, les dotations ont baissé, etc., etc. Je me souviens des cris d'orfraie des socialistes lorsque le gouvernement Fillon avait décidé de baisser, de geler, pardon, les dotations aux collectivités pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu des socialistes? Mais je n'ai pas entendu ces mêmes socialistes lorsque le gouvernement Hérault a annoncé de geler ces mêmes dotations, non pas pour 2 années, mais pour tout le quinquennat jusqu'en 2017. Alors franchement, monsieur le maire, assumez votre mauvaise gestion.
Oui, merci, monsieur le maire. En 2009, puis début 2010, fin 2010, nous avons voté lors des séances du conseil municipal le montant de la participation annuelle versée par la ville de Metz au CCAS pour 2009, pour le 2010 et pour 2011. Nous sommes en juillet 2012 et je constate que pour cette année, nous n'avons rien voté. Donc, rien. Mais je peux le comprendre. Le CCAS présentant une trésorerie florissante, un excédent de 7 millions d'euros provenant de subventions non utilisées sur plusieurs années. C'est un matelas bien confortable. Le CCAS pourrait donc faire l'économie d'une subvention municipale, quand bien même il y ait un projet de crèche à l'amphithéâtre que cet excédent permet de financer. Crèche dont on parle, mais on ne voit rien venir, enfin, pas avant la fin 2014, ce qui implique qu'il n'y aura pas de nouvelles places en crèche avant 2014. Alors, je dirais même que le nombre de places proposées aux médecins est un petit peu en baisse depuis le début de votre mandat, puisque vous avez poursuivi une politique d'ouverture des structures petite enfance auprès des non-médecins en ouvrant la réservation de berceaux à des entreprises et à des institutions. Et lesquelles? Le CCAS a-t-il pour rôle d'épargner tant alors que le budget 2012 de la petite enfance est en baisse de plus de 2%? Que le budget consacré aux personnes âgées n'augmente que de 1,3%, c'est-à-dire que c'est pratiquement rien. Je vous rappelle qu'entre 2009 et 2010, il avait augmenté de 6%. Nos seniors n'auraient-ils donc plus aucun besoin? Je voudrais pourtant souligner qu'en cette période de crise, vous n'avez pourtant pas hésité à répercuter la hausse des loyers des foyers logements chez l'ensemble des résidents. L'éviter aurait été une action de solidarité vis-à-vis de nos seniors. D'ailleurs, avec Mme Collin-Osterlé, nous avions voté contre cette augmentation. Le budget du CCAS reflète la mise en place de la politique sociale de la ville. Or, justement, quelle est la réalité de cette politique sociale quand on constate de tels résultats? Je vous remercie.
Merci. Alors, Mme Bourri.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, le vote du compte administratif est un moment important de l'année car il permet de mesurer concrètement quelles sont nos priorités. Je me félicite en particulier de la volonté de notre ville de poursuivre les actions engagées dans le domaine de l'éducation pendant le temps scolaire, mais aussi après l'école, non seulement en fonctionnement, mais également en investissement, avec un succès incontestable, puisque l'augmentation tant de la restauration scolaire que du périscolaire est au rendez-vous. Les résultats positifs de cette politique doivent nous encourager à poursuivre les actions dans ce domaine, et ce d'autant que l'étau qui enserrait l'enseignement public vient de se desserrer un peu et que notre ambition municipale est aujourd'hui partagée au niveau national. Par ailleurs, la réforme des rythmes scolaires va mettre à contribution les collectivités qui, dans leur mission de coéducation, auront à jouer un rôle important dans l'organisation des différents temps de l'enfant en concertation avec tous les acteurs concernés. La priorité municipale est également donnée au sport, à la culture, à la jeunesse, au soutien aux associations et qui dessine bien la cohérence de notre projet éducatif et atteste de la place centrale que nous voulons réserver aux enfants et aux familles dans la cité. Place, je le rappelle, essentielle et fondamentale si nous voulons répondre aux défis de notre ville dans les 20 années qui viennent. Aussi, contrairement à M. Etner, je pense que le projet de ville dont nous avons parlé en début de séance est un exercice prospectif et transversal fondamental. La présentation du compte administratif laisse apparaître une bonne santé financière de notre ville qui résulte d'une gestion sérieuse et dynamique, en contradiction avec notre opposition qui la veut seulement rigoureuse, ce qui n'est pas suffisant pour répondre aux besoins de la population et aux enjeux pour l'avenir de notre ville. Sérieuse, car si de nombreux indicateurs, et je ne les reprendrai pas tous, appuient mes propos, celui du taux de nos investissements est très parlant. En augmentation constante, il illustre bien que ce que nous engageons, nous le réalisons. Dynamique, car elle se traduit par des capacités financières favorables à l'accélération de nos projets, et c'est ce que nous verrons lors de l'examen du budget supplémentaire. Et plus particulièrement ce qui concerne l'efficacité énergétique dans nos bâtiments et équipements publics. L'énergie est un des enjeux majeurs de notre siècle, et ça, personne ne le conteste maintenant, d'autant que la crise économique et la hausse du coût de l'énergie ont aggravé le phénomène de précarité énergétique et donc les difficultés rencontrées par de plus en plus de familles. Elles sont 208 000 en Lorraine à payer les factures d'électricité et de gaz qui vont subir prochainement une nouvelle augmentation. Cette situation ne peut rester sans réponse de notre part. Il est donc urgent que nous ayons une action publique beaucoup plus volontariste sur les effets du phénomène énergétique, mais aussi sur les causes. Aussi, l'isolation des logements est un levier intéressant pour permettre des économies d'énergie favorisant les personnes les plus démunies, mais tout investissement dans ce domaine est un levier efficace de développement économique dans un secteur qui résiste à la crise. C'est une des propositions que notre sensibilité avait avancées lors du débat budgétaire 2011 au sujet de l'utilisation de la taxe sur l'électricité. Ceci étant, c'est dans ce contexte qui allie sérieux et dynamisme que nous voterons le compte administratif. Je vous remercie.
Merci. Alors, j'ai encore inscrit M. Darbois.
Oui, merci, M. le maire. Chers collègues, mon propos risque de dénoter un petit peu puisque je vais parler d'économie, certes, mais aussi d'écologie. Et je suis bien sûr complètement d'accord avec les propos de Daniel Bory à l'instant, et je vais vous parler effectivement d'énergie. L'écologie urbaine, le développement durable et solidaire est un domaine essentiel, transversal, c'est une évidence. Il touche notre quotidien, c'est-à-dire le court terme, il touche aussi le grand avenir, c'est-à-dire le long terme, et c'est là que l'écologie prend toute sa dimension. À l'occasion de ce point, mon propos touchera aux enjeux de l'énergie, et seulement l'énergie, car je suis persuadé que l'énergie est une part essentielle de l'avenir de l'humanité, et je pense que nous pouvons partager cela. Les collectivités locales sont aux avant-postes de la problématique énergie. Penser global, agir local, ici et dans les domaines de l'énergie, cela prend tout son sens. Deux courbes montrent l'ampleur du problème. Deux courbes, malheureusement, haussières. La première concerne le prix de l'énergie, lequel augmente inexorablement, et je ne vois pas quel miracle ferait que cette courbe s'inverserait. La deuxième courbe montre l'augmentation des températures, le réchauffement climatique accompagné d'épisodes climatiques de plus en plus nombreux, de plus en plus violents. Exemple, la semaine dernière, ici à Metz, et d'autres très nombreux en Lorraine, de plus en plus nombreux, de plus en plus violents. Faut-il ajouter à mon propos l'augmentation des gaz à effet de serre, la crise économique mondiale, plutôt crise de société d'ailleurs, dont l'unique réponse semble être une fuite en avant et un refus de changer nos schémas qui ne fonctionnent dorénavant plus. Mais revenons au local, revenons à Metz. D'abord, les deux tendances haussières, le prix de l'énergie, la hausse des températures. Cela est vrai au niveau mondial, cela est vrai au niveau européen, et c'est vrai à Metz, bien sûr. Alors que faisons-nous ici, l'exécutif de la ville de Metz? Nous, d'abord, s'engager. S'engager même symboliquement pour montrer dans quel camp nous sommes. Notre engagement au niveau européen de diminuer de plus de 20% nos émissions de gaz à effet de serre est un geste certes symbolique, mais important de sens. Signature de la Convention des maires, nous ne sommes plus dans la cohorte des collectivités locales qui causent d'écologie, déclarent, papotent, mais ne prennent jamais aucune décision concrète. Ça, c'était l'écologie de naguère quand on ne prenait pas de décision. On a connu ça ici. En isolant une part des bâtiments municipaux, écoles, gymnases, piscines, etc., nous sommes dans les réponses concrètes et de l'écologie du XXIe siècle et nous faisons notre part de la sobriété énergétique pour dépenser d'ailleurs moins demain. En faisant le choix au sein de notre SEM-UM d'abandonner le charbon au profit de la biomasse, nous faisons un pas sur le choix des énergies renouvelables, un pas dans la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr qu'il faut aller plus loin, beaucoup plus loin. Lorsque nous élargissons tous azimuts notre réseau de chaleur, nous sommes encore dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'optimisation de l'énergie. D'ailleurs, les spécialistes nationaux de l'énergie l'ont bien compris, puisqu'ils organisent en octobre, les 16, les 17, 18 et 19 octobre, 500 congressistes, moitié collectivités locales, moitié entreprises, seront réunis sur le thème de l'énergie ici à Metz. Merci. Je pense... Lorsque nous entretenons et dimensionnons correctement nos réseaux d'assainissement, nous sommes dans l'adaptation aux accidents climatiques de plus en plus fréquents, vous l'aurez remarqué. Lorsque nous augmentons considérablement nos rendements de distribution de l'eau, nous protégeons nos captages, nous sommes encore dans la sobriété, mais aussi dans l'usage respectueux de cette ressource naturelle, l'eau. Tout en restant dans le domaine de l'énergie, je pourrais élargir vers l'écomobilité ou l'organisation qui se met en place comme un puzzle autour du transport en commun et qui nous met vraiment dans les villes exemplaires du XXIe siècle. Voilà, monsieur le maire, chers collègues, je prends l'occasion de ce débat pour montrer une part importante de l'écologie urbaine qui existe ici et qui montre que nous sommes vraiment, vraiment entrés dans l'agenda 21, dans un programme de changement de nos rapports avec la planète et la vie, dans un programme qui marie l'économie et l'écologie. Certes, nous avons fait un bond dans l'écologie urbaine, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et ici comme ailleurs, nous ne sommes qu'au début d'une autre manière de voir notre rapport à la planète qui nous abrite. Bien que nous ayons encore fort à faire, je mesure le parcours accompli depuis 4 ans, depuis naguère, allais-je dire, temps révolu, pendant lequel il suffisait d'annoncer Metz-Ville verte, puis Metz-Ville jardin, j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, nous sommes, et j'insiste là-dessus dans les actes, nous sommes passés du 20e au 21e siècle, nous sommes passés de naguère à aujourd'hui, et aujourd'hui, nous préparons demain, je vous remercie. Je suis simplement parfois navré par le propos des plus jeunes d'entre nous, je pense à notre opposition, qui sont restés dans des schémas, excusez-moi de le dire comme ça, ringards. Réveillez-vous. Je vous remercie. Merci.
Monsieur le maire, mes chers collègues, je pensais d'abord parler du budget, mais avant, je vais répondre, aux reproches qui me sont faits sur la gestion du CCS. J'aurais dire d'abord qu'effectivement, je vais me faire un reproche. Le reproche, quand je suis arrivée au CCS, d'avoir fait confiance dans cette si bonne gestion dont vous vous glorifiez tous précédente et dans la vision peut-être que portait Madame Genet. Je pensais qu'effectivement, il y avait des choses intéressantes. J'ai découvert petit à petit un budget géré au CCS comme à la ville, c'est-à-dire avec un taux de réalisation excessivement faible, avec des résultats importants portés chaque fois sur les comptes d'investissement. Et j'ai découvert un CCS qui avait terminé ses projets. Il y en avait eu des très beaux, mais j'ai beau eu ouvrir tous les tiroirs, tous les placards, chercher partout, je n'ai pas trouvé de projet réalisable immédiatement. Alors, si je reprends la première partie sur le budget, oui, c'est vrai que nous réalisons un excédent tous les ans. Nous avons aujourd'hui un taux de réalisation à plus de 95%. Je trouve que c'est déjà pas mal. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de collectivités territoriales ou d'établissements publics qui peuvent se glorifier d'un taux de réalisation de cette même qualité. Et puis, nous avons aussi toutes les équipes du CCS extrêmement volontaires avec moi. Nous avons décidé de chercher aussi des autres recettes et des économies. Aujourd'hui, c'est la réalité. Aujourd'hui, le CCS a de nouvelles sources de financement et a réussi à faire des économies sur ses fonctionnements. Et par exemple, vous devriez regarder, puisque vous critiquez ce qui se passe à la ville, les budgets de personnel au CCS. Et vous comprendrez là où on fait aussi des économies, non pas parce qu'on cherche à faire des économies, parce que j'ai la fierté d'avoir titularisé et mensualisé un personnel contractuel géré au jour le jour, avec des conditions de travail compliquées. J'ai la fierté de l'avoir fait, ce qui n'avait pas été fait auparavant. Et j'ai la fierté aussi d'avoir augmenté, avec le vote unanime du conseil d'administration, les rémunérations cette année des assistantes maternelles grâce à ces économies faites ailleurs. J'ai aussi la fierté d'avoir, inciter davantage encore mes équipes à travailler plus avec leurs partenaires. Et aujourd'hui, nous voyons que notre partenariat avec la CAF sans arrêt augmente, s'améliore, puisque la CAF prend davantage la partie de plus en plus importante du financement de la petite enfance à Metz, ce qui nous permet effectivement de dépenser moins de notre côté. J'ai la fierté d'avoir trouvé des financements auprès des entreprises. Alors maintenant, je voudrais juste revenir sur un financement qui aurait dû être trouvé. C'est vrai que nous avons postulé, dès que nous avons travaillé sur la microcrèche de Bellecroix, au plan... S'il vous plaît, laissez-moi terminer, vous allez voir, madame, je vais vous parler de vous, madame Zimmermann, sans problème. Nous avons donc postulé au plan Espoir banlieue, puisqu'il s'agissait d'une microcrèche qui était à Bellecroix. Nous en avions discuté un jour, madame Zimmermann, et vous m'avez dit, si vous voulez, madame Palaise, je peux vous soutenir par un courrier à madame Fadela Amera, ce que vous avez fait, madame, je vous en remercie. Je ne l'ai jamais nié. Ce courrier, je l'ai. Madame Fadela Amara nous avait promis un financement de 150 000 euros. Mais dans la réalité, cette année, nous avons appris en début d'année que ce financement extraordinaire de Madame Fadela Amara, soutenu par vous, Madame Zimmermann, n'était pas de 150 000 euros, mais de 30 000 euros cependant.
Alors, Madame Zimmermann, s'il vous plaît.
S'il n'était pas ambitieux, je ne sais pas pourquoi vous l'avez soutenu. S'il n'était pas ambitieux, je me demande pourquoi vous l'avez soutenu.
Laissez parler l'oratrice, s'il vous plaît.
Voilà. Donc, contrairement aux promesses qui nous avaient été faites, le financement a été diminué et je donnerai tous les éléments à qui voudra les voir. Tout simplement parce que Madame Fadela Amara a perdu, comme nous l'avons vu tout à l'heure, tout l'impact qu'elle pouvait avoir dans la politique nationale. Pardon. Maintenant, je voudrais... Chut. mais je croyais qu'on devait ici laisser parler les gens, c'est extraordinaire. Je voudrais... Il n'y a aucun mensonge.
Madame Zimmermann, s'il vous plaît, on va laisser finir. Madame,
bon,
madame
ben nous aussi, on en a marre de vous, madame.
Oui, madame, vous avez menti aussi quand vous avez écrit sur votre acte que c'était grâce à vous que la crèche avait été créée. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Mais que... Mais... Je ne discute même pas. Je voudrais maintenant... C'est n'importe quoi et je le prouverai à qui le veut. Maintenant, je voudrais revenir simplement sur les nouvelles places d'accueil de la petite enfance. Aujourd'hui, nous accueillons dans nos structures, en moyenne par jour, 60 enfants de plus qu'en 2008. Donc c'est l'équivalent d'un équipement supplémentaire. Tous les chiffres sont à disposition de qui les veut. En ce qui concerne les nouveaux équipements, et nous avons donc à trouver aucun projet quand je suis arrivée. Et donc j'ai pris le temps, bien évidemment, de réfléchir pour savoir ce qui était nécessaire pour la ville de Metz. Et donc nous avons monté assez rapidement ce projet. Et l'année dernière, vous avez participé, certains d'entre vous, au projet, au choix architectural. Et nous venons de déposer le permis de construire. Ça a pris 3 mois de retard, je l'avoue. Excusez-moi, ça a 3 mois de retard. Mais nous allons avoir un nouvel équipement.
Mais 10 ans de merde, vous avez fait.
Dans tous les...
Madame Palaise.
Dans tous les équipements... Tous les équipements qui ont été créés ont demandé 6 ans en moyenne de projet, que ce soit un projet de droite ou un projet de gauche. C'est complètement ridicule de le nier. Nous avons donc un projet. Je peux annoncer un deuxième
monsieur
projet.
Monsieur Lebeau, s'il vous plaît.
Pas de bronca, monsieur Lebeau.
Monsieur Lebeau, essayez d'appliquer vos propres principes. La parole est à madame Palaise.
Non, mais monsieur le maire, je vois que de toute façon, seule la critique est intéressante, que quand j'apporte des éléments constructifs, ça n'intéresse personne et ça ne m'étonne pas vraiment. Nous avons un deuxième projet qui est en train de se finaliser, de 60 places supplémentaires sur la zone de Sébastopol. Nous allons ouvrir très bientôt un espace d'accueil pour les parents à Bellecroix, donc que personne ne vienne nous donner des leçons en matière d'accueil de la petite enfance.
Je discute même plus, c'est même pas la peine.
Merci madame. Avant de sortir, et je proposerai de donner la présidence au premier adjoint Richard Liogé, si vous en êtes d'accord, pendant le vote. Je voudrais apporter quelques éléments en remerciant Madame Palaise pour son exposé sur le CCS. Je n'interviendrai pas sur ce point. D'abord, quelques éléments factuels. Tout à l'heure, Monsieur Thiel, il est là, je ne le vois pas. Monsieur Thiel a indiqué qu'il y avait des années exceptionnelles, comme par exemple avait été vendu 15% du capital de l'UEM. Ça avait changé la donne en ce qui concerne le compte de résultats, le compte administratif. Alors je voudrais vous dire qu'il y a des années, cette année, eh bien c'est la même chose. Si vous aviez regardé un peu dans le détail l'origine de ces excédents, vous auriez constaté qu'il y a déjà 2 zones qui ont été fermées. Ces zones, elles ont été gérées à travers les ans et on a vendu les terrains au fur et à mesure. Et il y a 5 300 000 euros d'excédents sur ces zones qui rentrent dans le budget. C'est une bonne nouvelle et je vais vous expliquer ce qu'on va en faire. Mais ça représente... Monsieur Thiel, s'il vous plaît, je vous explique ce qui se passe. C'est-à-dire que j'essaye de répondre à vos questions. Vous êtes trop aimable. Donc, je réponds. J'explique la consistance de ces 10 millions en vous expliquant qu'il y a déjà 5 300 000 euros qui viennent de la clôture de 2 ZAC. Ce sont donc des rentrées qui sont exceptionnelles, qui ne sont pas du tout annuels et qui ne pouvaient pas être si facilement que ça prévu, puisque en réalité, ces actes
On les a soldés parce qu'on a réussi à vendre les derniers terrains qu'on avait du mal à placer et qui maintenant ont tous été vendus, si bien qu'on termine, on boucle ces actes en faisant une bonne affaire pour la ville, puisque c'est un patrimoine financier important qui rentre dans les comptes. La deuxième rentrée qui est très importante, ça a été la taxe que nous prélevons sur les transactions immobilières. Il y a une transaction immobilière très importante, exceptionnelle, qui est celle de la vente du centre Saint-Jacques. Ça ne vous a pas échappé, ça n'a certainement pas échappé à M. Thiel, mais je vous le rappelle, M. Thiel, ça fait 1 million de plus. En total, il n'y aurait pas ces deux événements-là, il y aurait 3,7 millions d'euros. Si bien que l'année dernière, on avait 2,9, l'année d'avant, on avait 1,9. J'ai suivi tous les budgets depuis un certain temps. C'est des ordres de grandeur qui sont tout à fait classiques et qui nous permettent simplement, puisqu'on a des bonnes opportunités compte tenu de cette conjoncture, mais c'est comparable aux 45 millions qui étaient rentrés quand on avait vendu 15% du capital de l'UEM, qui nous permettent d'avoir une politique intéressante. C'était ma première réponse. Ma deuxième réponse concerne l'endettement. C'est passionnant de parler d'endettement parce que c'était un leitmotiv ancien et le graphique qui vous a été présenté continue à être là, malgré les 7 millions qui sont un emprunt de précaution. J'ai pris cette décision parce que tous les experts m'ont expliqué, et je vous rassure, ce n'est pas un emprunt consolidé sur quoi que ce soit, ni le franc suisse, ni autre chose. Hein. Il est à un taux qui est très bas et tous les experts nous expliquent que dans un futur à prévoir à quelques années, et je me projette dans quelques années, figurez-vous, on aura intérêt à avoir fait cet emprunt tout en gardant une partie des capitaux qui sont disponibles à la ville de Metz. Alors effectivement, quand j'explique ça à mes collègues, les maires des autres grandes villes, ils sont un peu étonnés de voir notre situation financière et ils me disent, eh bien effectivement, Metz est une ville qui est bien gérée. Et je vous confirme que nous avons pris cette décision et que malgré tout, l'endettement annuel actuel à Metz est inférieur à celui qui existait en 2008. Nous continuons à diminuer en endettement et, nous continuons à diminuer en endettement actuellement. Nous en sommes autour de 100 euros par habitant, soit 10 fois moins, je dis bien 10 fois moins que la moyenne des villes comparables. C'était mon deuxième point. Troisième point, je voudrais revenir, Monsieur Thiel, sur une remarque que vous avez faite sur la taxe de séjour. Je vous signale, Monsieur Thiel, que quand nous sommes arrivés, le chantier du centre Pompidou était en cours. Le centre Pompidou n'était pas terminé, le chantier était en cours. Il a fallu envisager le fonctionnement. Et envisager le fonctionnement en solidarité avec Metz Métropole. Parce qu'effectivement, rien n'était prévu de ce côté-là. Rien n'était prévu. Le fonctionnement, je vous le rappelle, il y a 9 millions d'euros qui sont garantis par les collectivités locales. Et j'ai estimé de mon devoir de participer à ce fonctionnement pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est qu'il est normal que la ville de Metz soit présente autour de table, pas seulement comme étant déléguée de Metz Métropole. Et donc, la ville de Metz y est inscrite au titre du tourisme, parce qu'effectivement, c'est un facteur touristique très important, et cette taxe de séjour est intégralement versée au centre Pompidou-Metz, dont vous êtes très fier, Monsieur Thiel, et ça a été une mesure qui correspond tout à fait à une augmentation du fonctionnement du tourisme et qui est une participation du tourisme au fonctionnement du centre Pompidou. Raison pour laquelle j'assume pleinement d'avoir mis en œuvre cette taxe de séjour qui correspond à un retour sur investissement tout à fait valable. Maintenant, s'agissant de les emprunts, j'en ai parlé, l'effet ciseau et le rapport de la Cour des comptes. Je m'excuse de vous renvoyer à nouveau au rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes, en arrivant, nous a fait la leçon, je dis bien nous, parce que je suis la ville de Metz, en l'occurrence en ce moment comme maire, et en nous expliquant que le différentiel entre les recettes et les dépenses était en train de diminuer dangereusement et qu'on risquait de se trouver coincé sur les investissements. Alors effectivement, ça ne vous a pas échappé les uns les autres, nous avons une politique d'investissement qui est active. Et cette politique d'investissement active contribue à la préparation de l'avenir de la ville. On me parle de ville éventrée, etc. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'effectivement, les activités des entreprises en ce moment à Metz sont favorables. Je rencontre des chefs d'entreprise qui sont heureux de la dynamique. Et je vais même vous faire une confidence. Il m'arrive de lire la presse nationale. Je vais vous en faire part parce que finalement, c'est tout de même un bon juge de paix. Il se trouve que le jeudi 5 juillet, c'est aujourd'hui, Challenge, le magazine des entreprises, c'est peut-être un magazine de gauche à voir, hein, le magazine Challenge, il indique le top 20 des villes françaises les plus dynamiques. Le top 20 des villes françaises les plus dynamiques. Je tremble à lire ça en vous écoutant, parce que en vous écoutant, je savais déjà où j'étais. Heureusement, ce n'est pas vous qui avez fait l'article. Parce que effectivement, nous sommes 17e dans les 20 premiers des villes les plus dynamiques de France sur des critères qui sont des critères de développement économique. Le journal des entreprises, ça s'appelle. C'est-à-dire, on est en plein dans le domaine de l'économie, celui qui est cher à M. Aldrin. Eh bien, écoutez, je vous renvoie à Challenge. Je vous renvoie à Challenge. Le palmarès des villes des plus dynamiques, ça, c'est dans l'événement, et c'est le jeudi, et c'est de juillet 2012 également. Dans les villes de l'Est, hein, il n'y a que Strasbourg qui est légèrement au-dessus de nous, et on est devant Mulhouse, on est devant Nancy, on est devant Reims, on est devant Dijon. Malgré notre situation qui est difficile par rapport aux villes de l'Ouest qui ont un grand dynamisme et aux villes du Midi, eh bien, nous en sortons bien. Alors, je vous rassure, ne décrivez pas trop la situation de la ville de Metz différente de ce qu'elle est vraiment. Effectivement, tout le monde nous explique que nous avons une très bonne dynamique économique, une très bonne dynamique dans l'investissement public et que nous préparons activement l'avenir. Alors, je voudrais terminer en vous indiquant les fondamentaux qui sont au tableau. Vous ne voulez pas les voir. Vous ne voulez pas les voir. S'agissant de l'emploi, pour être clair, c'est un sujet qui a été pris plusieurs fois pour cible. D'abord, je voudrais vous dire que je suis globalement extrêmement satisfait de la façon dont le personnel municipal fonctionne. J'ai déjà eu l'occasion de monter ici au créneau pour le défendre. Mais je voudrais vous donner les explications sur l'évolution des chiffres. L'explication sur l'évolution des chiffres est la suivante. S'agissant des agents hors emploi permanent, c'est-à-dire des agents qui ont un travail temporaire à la ville. Ils ont tous d'ailleurs un statut convenable, mais il y a beaucoup d'agents qui ont... Alors, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il y a des emplois aidés. En 2009, il y en avait 12, il y en a maintenant 25. Nous avons décidé, effectivement, de prendre dans nos services des emplois aidés pour aider, justement, les gens les plus défavorisés à avoir le pied à l'étrier. Nous avons décidé de passer de 25 à 34 apprentis. Et nous continuerons à le faire. Nous favorisons l'apprentissage dans les services de la ville de Metz et j'ai demandé au service de continuer à passer du temps à s'ingénier, à former des apprentis dans les services de la ville de Metz et j'en suis fier. Il y a donc une augmentation de l'emploi à travers les apprentis. Enfin, les agents d'encadrement des cantines. Effectivement, on peut me le reprocher. C'est 64 personnes. 64 personnes qui sont là dans les cantines. Auparavant, il fallait voir comment ça fonctionnait. Je ne vais pas m'amuser à le décrire, j'aurais peur encore d'avoir une bronca. Mais rappelez-vous comment ça fonctionnait. Et ces personnes, tous ensemble, qui sont des emplois temporaires, représentent 15 emplois à temps plein. J'assume parfaitement ces emplois qui correspondent à un progrès social important. Et je vais vous dire, ça va nous renvoyer à l'année prochaine, l'année d'après, encore après. Eh bien, je vais vous dire, on va continuer. Parce que les cantines, ça marche. Ça plaît dans l'opinion et nous allons, laissez-moi me parler, nous allons embaucher du monde encore pour l'encadrement des cantines et vous me direz qu'il y a une dérive des emplois à Metz. Oui, nous allons continuer à embaucher des personnes parce que de plus en plus de médecins préparent leur année scolaire en pouvant compter sur la réalité des cantines et du périscolaire dans la ville. Et je vous donne déjà le scénario de l'année prochaine, de l'année d'après et des années suivantes. Il va y avoir une augmentation. Je pense que nous irons tendanciellement, comme d'autres villes, je vais encore me comparer, je suis navré, et nous irons peut-être un jour vers la moyenne, monsieur Thiel. Nous irons doucement vers un fonctionnement à environ 50% de la population scolaire dans les cantines, puisque c'est ce qui se prépare dans beaucoup de villes. Et vous m'excuserez, il y aura encore du personnel et il y aura encore des mètres carrés à mettre en place. Je vous explique, Madame Zimmermann, s'il vous plaît, ayez la courtoisie de me laisser terminer, j'explique ce que vous remarquez dans les emplois. S'agissant maintenant des emplois permanents, eh bien, le nombre est resté pratiquement identiques avec, c'est vrai, une augmentation des emplois non titulaires, un certain nombre de postes. Un certain nombre de postes ne correspondent pas. Mais vous en faites pas, vous ne nous en faites pas. Nous ferons des concours, tous les gens qui passent les concours sont intégrés, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je vous rappelle que tout ça passe par le comité technique paritaire. Et croyez-moi, les représentants syndicaux sont des gens très scrupuleux. Et dans l'état actuel des choses, nous avons eu l'aval de toutes les décisions qui ont été prises en matière d'emploi. Et je les en remercie. Alors, je voudrais terminer en vous disant que l'excédent de cette année, eh bien, c'est une excellente opportunité pour continuer à investir. Parce qu'effectivement, ça a été dit tout à l'heure, quand on a un rythme de 25 millions par an ou de 30 millions par an d'investissement dans une ville comme Metz, eh bien, la Cour des comptes nous explique que si vous continuez comme ça, ça finira mal pour vos équipements. Tout est en train de vieillir, tout est en train de prendre de l'âge, et un jour ou l'autre, eh bien, ça s'affaisse, ça s'écroule, ça ne fonctionne plus. Voyez un peu ce qui se passe dans des villes où on n'entretient pas les réseaux d'égouts, par exemple. J'ai été mis sur la sellette, y compris d'ailleurs ici, pour des travaux qui éventraient la ville parce que j'ai mis en place des réseaux d'égouts de 1,20 m de diamètre, voire de 1,40 m. Eh bien, figurez-vous qu'à Essey-les-Nancy, ils ont oublié de le faire. Et quand il y a une grande pluie, comme ça nous est arrivé ici il y a 10 jours, eh bien, nous avons des réseaux d'égouts qui sont capables de fonctionner. Et quand on ne prévoit pas ces réalités météorologiques, eh bien, un jour ou l'autre, on peut le payer. Et vous m'excuserez, un réseau d'égouts, ça ne s'inaugure pas. Mais moi, je suis très fier d'avoir mis là où il fallait mettre des égouts d'un mètre vingt, en bas de Queuleu, en bas de Plantière, en allant vers la place Mazel et à devant les ponts et à Metz-Nord. Parce que c'est comme ça qu'un maire responsable doit faire. Alors maintenant, j'en ai terminé. Je pense que nous allons pouvoir avoir un beau débat extrêmement riche et intéressant sur le budget supplémentaire, parce que nous avons les moyens d'avoir un beau débat extrêmement riche sur l'avenir de la ville pour le budget supplémentaire. Et je vais laisser la présidence, si vous en êtes d'accord, à Monsieur Lioger pour le vote. Et je vais sortir.
Bien, donc on va passer, si vous le voulez bien, au vote. Qui vote contre ce... Explication de vote, allez-y, alors, Monsieur Thiel.
Oui, explication de vote, si vous le voulez bien, Monsieur le Président. Écoutez, dans sa réponse, le maire a fait un certain nombre d'assertions qui sont sans fondement, qui sont fausses. Prétendre, par exemple, que le personnel non titulaire qui s'envole aujourd'hui, Emmanuel Lebeau et Jérémy Aldrin en ont fait la preuve tout à l'heure, est dû aux cantines scolaires, ne tiendrait pas compte, évidemment, d'un certain nombre de chargés de mission embauchés et qui pèsent sur cet effectif. Je vous renvoie à cet égard sur les effectifs, d'ailleurs, à une petite analyse que j'avais faite sur la simple base, d'ailleurs, de votre annuaire administratif, où on voyait que certains services avaient complètement explosé en doublant ou en triplant leur effectif, et notamment en cadre A, c'est-à-dire, ou équivalent cadre A, c'est-à-dire des cadres. Ensuite, sur l'explication qu'il a donnée quant aux zones, je fais observer quand même que ce sont des budgets annexes, évidemment, ça intègre complètement la comptabilité générale de la ville, mais tous ceux-ci sont en croissance, qu'il s'agisse effectivement des campings, de l'eau, etc. Je ne pensais pas qu'on allait descendre dans ces détails, mais globalement, la démonstration tient toujours. Aussi, pour toutes ces raisons, et parce que nous estimons qu'aucune réponse sensée, chiffrée, n'a été apportée à l'ensemble des questions que nous avons posées et surtout des observations que nous avons faites, nous voterons contre ce
compte administratif. Merci, Monsieur Lebeau, je suppose, pour le groupe de Madame Zimmermann, c'est ça ?
Allez-y. Non, merci, Monsieur le Président. Pour compléter un seul point par rapport à la démonstration de Patrick Thiel, je prendrai l'endettement vertueux. C'est-à-dire que Monsieur le maire nous a expliqué qu'il fallait emprunter de l'argent, c'est-à-dire 7 millions d'euros, alors que, dans le même temps, la ville place 23 millions d'euros. Sauf que les 7 millions d'euros sont empruntés à 3,29%. Les 23 millions sont placés à 1,20%. Donc chaque année,
votre emprunt vertueux fait perdre 1,5% à la ville. Alors, si ça c'est la vertu, ça ne me permet que, au pire, de se dire qu'y a-t-il un pilote de l'avion, y a-t-il un gestionnaire dans cette ville, et donc nous pouvons que voter contre ce compte administratif.
Bien, merci. Je crois qu'il faudra voir si la question de la vertu s'apprécie sur 4-5 ans et pas aujourd'hui. Je crois que vous n'en êtes pas juge, monsieur Lebeau. Monsieur Fonté, s'il vous plaît.
Oui, merci, monsieur le Président. Écoutez, tout ce que j'ai entendu ce soir, c'est plutôt l'hommage du vice à la vertu. Parce que nous reprocher d'avoir un budget excédentaire, je trouve ça fort de café. Alors, je sais bien que l'opposition, pendant 10 ans, nous a habitués à augmenter la dette de l'État de 60 milliards par an. Alors, si nous avions eu une gestion négative, nous serions peut-être les champions de la gestion. Donc, aujourd'hui, ce budget, vous me laissez parler. Et je sais bien que le monsieur au fond de la classe est toujours mal élevé. Il donne des leçons de courtoisie aux autres, mais en permanence, il nous interrompt. Alors, il fait de la comptabilité comme monsieur Jourdain faisait de la prose, en utilisant des chiffres comparés à je ne sais quoi. Aujourd'hui et depuis 2008, nous avons fait face à une imprévoyance totale du budget. Puisque ce qu'oublie de dire l'opposition, c'est que lorsque nous sommes arrivés, la participation de l'UEM au budget de la ville était en diminution de 3,5 millions. La suppression des recettes du parking aérien de la place de la République, c'est moins 1,5. Et nous avons fait face, et nous courageusement, en augmentant les impôts et la fiscalité, effectivement, et nous l'assumons. Et nous l'assumons pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'excédent que nous faisons nous permet de donner à ces citoyens messins une prestation de service de haute gamme et une redistribution des moyens très importante. Daniel Bory l'a dit, Darbois l'a dit, René l'a dit sur la mise à niveau de nos infrastructures et nos structures. Donc nous avons un budget anti-crise face à une crise de l'État. Aujourd'hui, nous ne sommes pas endettés, nous avons un excédent budgétaire, nous l'assumons, et les Messins seront tranquilles pour les années à venir. Donc, nous voterons ce budget dès demain, s'il le faut. Merci, messieurs. Adieu.
Merci. Bon, pas de polémique, s'il vous plaît. Donc, on va passer au vote. Qui vote contre ? Merci. Qui vote pour ? Merci. Et demain. Bien, on peut faire entrer monsieur le maire. Monsieur le maire, le compte administratif est voté. Je vous redonne la présidence de la séance.